Bon dimanche après-midi, frères et sœurs. C'est une joie de pouvoir louer à nouveau le Seigneur avec vous. La dernière fois que j'ai apporté la parole parmi votre assemblée, on a parlé de ta nouvelle famille. Mais là, on va parler de ton ancienne famille, qui est peut-être encore ta famille actuelle, mais en tout cas ta famille naturelle, qui est en continuité avec ta famille spirituelle. Il y a une nouvelle famille, mais ça ne veut pas dire que l'ancienne famille n'existe plus, qu'elle n'a pas un statut non plus dans le cadre du royaume de Dieu, puisque le royaume intègre aussi la structure que Dieu a établie dans l'ordre naturel avec la création. Et c'est intéressant de constater qu'après avoir parlé de notre nouvelle famille, dans Colossiens 3, les versets 1 à 17, les relations à l'intérieur de l'Église, Paul enchaîne sans marquer de pause avec les relations intrafamiliales, avec la structure de la famille dans le mariage entre l'homme, la femme, les parents, les enfants et les domestiques, pour ceux qui en ont. Nous, on en avait un, mais il s'est marié, donc il nous a quittés. Pour ceux qui ne savent pas, là, je fais une petite blague parce qu'Étienne, c'était notre domestique autrefois. Colossiens 3, versets 18 à 25, c'est le texte que je vais vous exposer. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Enfant, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteur, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point de favoritisme. Amen. Alors, on vit à une époque où ça va bien côté famille, n'est-ce pas? Les gens ont des repères clairs, c'est quoi un homme, une femme, le mariage, l'éducation des enfants. Alors, oui, aujourd'hui, les gens sont confus. La famille est malmenée, mais je ne pense pas qu'on réussira à faire disparaître l'ordre naturel que Dieu a établi, qu'on le chasse, mais il revient au galop, qu'on essaie de réinventer un nouvel ordre, mais ça ne tiendra pas, puisqu'on ne peut pas remplacer ce que Dieu a établi, et c'est bon pour nous de savoir qu'est-ce que Dieu a établi. Alors, mais je n'ai pas l'intention de taper sur tous les innovations en termes de vie domestique d'aujourd'hui, la famille du 21e siècle, dans toutes ses déclinaisons. La meilleure façon de comprendre ce que doit être la famille, c'est pas tant de décrier ce qu'elle n'est pas, mais que d'affirmer ce qu'elle est. Alors, la plupart des problèmes qu'on vit dans la famille, dans nos relations au sein de la famille, viennent d'un manque de conformité au modèle divin. Alors, c'est tout simple à comprendre, mais on en a pour toute une vie à apprendre à le mettre en pratique. Alors, j'espère que ça va être concret, que ça va être pratique. Surtout, ça va être pas tant illustré avec plein d'exemples pratico-pratiques. Je vais vous répéter ce que vous savez, croyez déjà, les grands principes, mais qui sont jamais dépassés, qui sont essentiels. Et comme la vie de famille, c'est on s'en sort pas, même si on est célibataire, peut-être vous vous dites, ce message n'est pas pour moi. Moi, je vis tout seul, sans enfant, j'ai pas besoin de ce message. Mais détrompez-vous, le Seigneur a quelque chose à dire aussi aux célibataires dans le cadre de la famille, parce que vous n'êtes pas sortis nulle part. Vous avez probablement une famille quelque part dont vous devez prendre soin. Et c'est pas toujours simple, surtout quand toute la famille n'est pas unie en Christ. Jésus nous a prévenus. Il nous a dit qu'il n'allait pas mettre la paix, mais l'épée parmi les hommes et parmi les hommes d'une même famille. Alors, on est unis quand la parole nous unit. Mais quand la parole ne nous unit pas, combien on peut être divisé? Alors, on a besoin d'autant plus de comprendre ce que la parole nous dit pour pouvoir honorer Dieu dans des relations où c'est parfois compliqué. Alors, la relation de base pour la famille qui nous est présentée, c'est celle du mariage. Le mariage n'est pas une invention des hommes, mais de Dieu. On le retrouve au commencement, lorsque Dieu crée l'homme et la femme. Il a donné l'alliance du mariage. Il n'a pas dit « voici l'alliance du mariage », mais il a dit « c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair ». Et c'est interprété par Jésus comme l'institution d'une alliance entre l'homme et la femme devant Dieu lorsqu'ils s'unissent pour faire un et qu'ils ne doivent pas séparer ce que Dieu a uni. Mais notre chair tiraille beaucoup parfois parce que ce n'est pas facile de vivre l'unité maritale. Mais donc, on apprend à faire un pour la vie. Rien ne doit dissoudre cet état sauf la mort. Et le Seigneur Jésus nous dit que l'adultère peut être l'équivalent, et pas automatiquement, mais ça peut aussi dissoudre l'alliance lorsqu'il dit « Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Donc, il n'y a pas de permission de dissoudre ce mariage parce qu'il est indissoluble. Alors, une fois qu'on contracte cette alliance, elle ne se dissout plus. Le divorce, selon ce que Jésus nous dit, c'est une permission de vivre séparé, c'est pas une permission de se remarier, parce qu'en fait, ça n'a pas annulé l'alliance, et c'est pour ça que quand quelqu'un se divorce et marie quelqu'un d'autre, il commet un adultère, parce qu'en fait, le divorce, c'est simplement en raison de la dureté de nos cœurs, qui fait qu'on n'est plus capable de s'endurer, donc on se sépare, mais l'alliance est toujours là. On ne peut pas se remarier, à moins qu'il y ait la mort d'un des deux conjoints, ou qu'il y ait eu un adultère. Mais même en cas d'adultère, le mariage peut être préservé, restauré, l'adultère pardonné, expié. Alors voilà, le mariage a été institué au commencement. Si tu n'es pas encore marié, tu dois savoir que ton choix d'un futur mari, d'une future femme, ne peut se faire que dans la famille de Dieu. Alors, on est des réformés baptistes, on ne pratique pas l'endogamie. Qui sait c'est quoi l'endogamie? Personne, je pensais. Oui, Raphaël?
C'est quand tu es avec quelqu'un d'une autre famille de doctrine?
Pas tout à fait. L'endogamie, c'est qu'on pratique le mariage à l'intérieur de la même communauté de foi. Donc, par exemple, il y a des églises qui interdisent de se marier en dehors de leur propre église locale. Ça se rapproche plus des sectes, ça, à mon avis. Mais, par contre, l'Écriture est assez claire que quand on se marie, on doit se marier dans le Seigneur. Ce que ça veut dire, c'est que les chrétiens ne peuvent pas se marier avec des non-chrétiens. Alors, s'ils se retrouvent qu'ils étaient déjà mariés et qu'il y en a juste un qui se convertit, donc que tu es marié avec un non-chrétien, ben là, il faut voir si le non-chrétien va t'endurer, mais il doit comprendre que maintenant, tu ne sers plus Zeus ou Jupiter ou Mammon ou le plaisir du siècle présent, mais tu sers Jésus-Christ et c'est à lui que va ta première allégeance. Et si tu peux vivre avec ça, ben tu vas vivre aussi avec ce mari ou cette femme non-chrétien. Mais donc, désormais, pour vivre des relations heureuses dans la famille, l'idée, c'est pas d'attendre que les autres te rendent heureux. Mais c'est de te concentrer sur tes propres rôles. Tu n'as peut-être pas marié le mari aussi idéal que tu t'imaginais, ou la femme aussi parfaite que tu pensais qu'elle était pendant la période de fiançailles. Il y avait peut-être des vices cachés. Mais maintenant, c'est fait. Alors, qu'est-ce que tu dois faire si ton mari, ta femme ne te rend pas parfaitement heureux? Ben, tu dois te concentrer sur tes propres rôles. Et l'apôtre Paul nous énumère de façon très prosaïque, pas de dentelle, pas de fla-fla, et nous dit, un après l'autre, les femmes, c'est ça que vous avez à faire. Les maris, c'est ça que vous avez à faire. Les enfants, c'est ça. Les parents, c'est ça. Alors, regardons, un après l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Aux épouses. Alors, laissez-moi vous le dire sans corps ni sans dents, pour reprendre l'expression de Martin Luther, le féminisme, c'est mal. Bon, il y a peut-être une forme très modérée du féminisme qui est compatible avec la vie chrétienne. Les femmes qui s'affirment, je pense que c'est correct, c'est biblique. Mais je parle du féminisme qui va à l'encontre, qui est en rébellion de l'ordre que Dieu a établi entre l'homme et la femme. Il faut renoncer à cela, mes sœurs. Alors, je sais que là, ici, je risque pas de me faire lancer des tomates. Je suis dans une église très patriarcale. Les femmes portent le voile, en tout cas certaines. Mais c'est pas parce qu'on met le voile que on n'est pas un petit peu féministe au fond de notre cœur. Parce que le féminisme, ça n'a pas été inventé dans les années 60. Hein, ça remonte à la chute de l'homme. Mais réfléchissons un petit peu à ce que le féminisme clame. Parce qu'il y a quand même des aspirations qui étaient légitimes dans l'élan du féminisme, à savoir que la femme est l'égale de l'homme. Et que cette égalité entre l'homme et la femme doit se traduire socialement. Qu'ils devraient avoir les mêmes droits, qu'ils devraient, même s'ils n'ont pas les mêmes rôles, et qu'il y a une égalité qui doit vouloir dire quelque chose. Mais d'où ça vient, ça, l'égalité de l'homme et de la femme? Et c'est là où le féminisme antichrétien a un certain problème, c'est qu'il n'y a pas de fondement à son affirmation. Il affirme que l'homme et la femme sont égaux, mais en réalité, ils ne sont pas égaux. Parce qu'ils sont différents. Et si on fait une compétition sportive, je pense que l'homme va être supérieur à la femme. Dans à peu près toutes les compétitions sportives. Bon, il y a peut-être des femmes qui peuvent être supérieures à des hommes dans certains domaines, mais si on prend le meilleur de chaque domaine, dans le sport, ça va toujours être les hommes. C'est pour ça qu'on les sépare, puis que c'est un scandale, le transgenrisme, de dire que des hommes vont se faire passer pour des femmes et vont arriver avec des avantages physiques, une meilleure ossature, une plus grande capacité musculaire, et vont compétitionner contre des femmes. Ils ont un avantage naturel. Et puis, finalement, on avait créé un espace pour permettre aux femmes de remporter des médailles, mais là, elles se font supplanter par des hommes qui se font passer pour des femmes. Ça, c'est injuste. Même les païens le reconnaissent. Ben, pas tous les païens. Il y a des païens qui n'arrivent même pas à trouver que c'est inique, une telle approche. Mais d'où vient l'égalité de l'homme et de la femme s'ils sont si différents? Si l'homme semble avoir une supériorité à tout le monde au niveau de sa force physique. L'égalité, on la retrouve dans l'image de Dieu qui le fait porter l'un à l'autre. Et le problème du féminisme qu'on retrouve dans le monde, le féminisme qui rebelle à l'ordre créationnel, qui voit la parole de Dieu comme quelque chose qui oppresse la femme et dont elle doit se libérer, c'est qu'il lui enlève le fondement de son égalité. L'homme et la femme sont égaux parce qu'ils portent tous les deux l'image de Dieu. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui, un vis-à-vis. » Et là, il y a tous les animaux qui viennent devant l'homme, mais il n'y a pas l'égal de l'homme. Alors Dieu lui en fabrique un à partir de lui, prise de lui-même, chair de sa chair, os de ses os, de même nature. Donc elle ne peut pas être son inférieur, elle est de sa substance. Et quand l'homme la voit, dans Genèse 2, verset 23, il dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On appellera Isha parce qu'elle a été prise de Ish. » Donc, L'égalité homme-femme a pour fondement cette réalité ontologique. Ce n'est pas quelque chose de social, l'égalité homme-femme. C'est quelque chose de créationnel. Mais si on nie la création et qu'on nie que l'homme est à l'image de Dieu, ben on enlève l'égalité, non seulement entre l'homme et la femme, mais entre l'homme et son prochain. Parmi toutes les différences qu'on retrouve dans les ethnies, les cultures, les races, qu'est-ce qui fait que tous les hommes sont égaux? Parce qu'on voit cette aspiration, même depuis le siècle des Lumières, hein? C'est égalité, liberté, fraternité, c'est ça la triade de l'aspiration de la civilisation française. Mais sur quelle base les hommes sont-ils égaux? Il y en a qui sont riches, il y en a qui sont pauvres, il y en a qui sont en santé, il y en a qui sont handicapés, il y en a qui sont intelligents, il y en a qui sont abrutis. Ils ne sont pas égaux. La seule base, c'est sur la base ontologique, leur être propre, l'essence même de ce qui signifie être un être humain. Et on n'est pas un simple animal, on est une créature à l'image de Dieu. Alors si on nie cela, ben on nie la véritable égalité entre les hommes et entre l'homme et la femme. Au verset 27 de Genèse 1, ça dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Un verset intéressant. Il nous parle de l'homme au singulier, de façon générique, il parle du genre humain, pas simplement de l'individu Adam. Et ensuite, il nous décline l'homme en deux genres, en deux sexes. Puisque le genre et le sexe, ça va ensemble. Aujourd'hui, on les sépare. Mais c'est une confusion. Le genre vient de la réalité sexuelle. Nous sommes des êtres sexués. Et l'homme et la femme sont tous les deux à l'image de Dieu. Et Dieu les a créés non seulement égaux, portant également son image, et c'est ce qui fait leur dignité intrinsèque, c'est ce qui fait que la valeur d'un humain n'est pas liée à son échelle, à son rang social, à sa valeur économique, mais à sa substance ontologique. Un humain a une valeur parce qu'il porte l'image de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes pro-vie. Il porte l'image de Dieu dès sa conception. Et donc, nous croyons que la vie est sacrée. L'homme n'est pas du bétail. On ne peut pas en faire ce qu'on veut. Parce que s'attaquer à l'homme, c'est s'attaquer à l'image de Dieu. Alors, Dieu a créé l'homme et la femme égaux, et il les crée aussi interdépendants. On voit ça dans 1 Corinthiens 11. 11 et 12, que l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme. Il y a un rapport d'interdépendance, même s'il y a un ordre. Mais l'erreur du féminisme, on revient là, c'est de briser cette interdépendance. Les femmes veulent s'émanciper des hommes, ne plus avoir besoin des hommes. Ben, puis aujourd'hui, on n'a même plus besoin d'être un couple pour se reproduire. La technologie médicale nous permet de pouvoir concrétiser ces aspirations idéologiques qui sont diaboliques. Et donc, le féminisme, en rejetant l'interdépendance, a voulu plutôt ancrer l'égalité homme-femme dans leur rôle social, plutôt que dans l'essence humaine. Pour que la femme soit l'égale de l'homme, ben elle doit pouvoir avoir le même rôle que l'homme. Occuper toutes les mêmes fonctions dans la société que l'homme. Et être capable autant que l'homme de ne pas être accablé par le fardeau des enfants. Parce que l'homme, lui, c'est facile. Il peut se reproduire. Mais il ne porte pas l'enfant. Il n'est pas lié à porter un enfant pendant 9 mois dans son sein. Alors, la femme peut peut-être s'en séparer après, mais c'est plus compliqué généralement pour la femme parce que le bébé dépend d'elle physiquement. Et donc, le sacrement du féminisme
c'est l'avortement. Qui libère la femme de ce qui l'empêche d'être l'égale de l'homme. C'est la maternité qui l'empêche d'être l'égale de l'homme. Alors, ce que Dieu a créé, qui est beau, qui est parfait, les pécheurs dépravés le changent en ténèbres. Ils appellent le mal bien, le bien mal. Mais les enfants de Dieu ont l'intelligence renouvelée. Ils ne pensent pas selon le siècle présent. Ils ne voient pas la maternité comme quelque chose qui handicape la femme et qui l'empêche de s'épanouir. Bien sûr que ça va t'empêcher de t'épanouir au sens où le monde entend l'épanouissement. Tu n'auras plus tout à fait la même liberté avec un bébé. Mais si tu as marié un homme qui est bon, il ne va pas t'abandonner avec ce fardeau. Il va le porter avec toi. Il va te soutenir dans cette charge-là. Mais les enfants, c'est un fardeau. C'est une bénédiction. Mais c'est une bénédiction qui vient aussi comme une sanctification, qui nous force à mourir à nous-mêmes et qui nous apprend l'amour et qui est quelque chose de merveilleux que Dieu veut. Donc la mentalité moderne qu'il faut pouvoir s'émanciper de cet ordre de la nature qui était bon au Moyen-Âge, bon pour nos grands-mères, mais qui est nuisible pour nous, c'est une mentalité païenne et diabolique qui déplaît à Dieu et qui ne peut pas caractériser l'intelligence renouvelée des enfants de Dieu. Donc la femme ne va pas jouer son rôle dans le cadre de la famille chrétienne en rejetant l'ordre que Dieu a établi et la fonction particulière qu'il a donnée à la femme d'être une mère et de porter des enfants. Les chrétiens comprennent que la femme est l'égale de l'homme, non pas dans ce qu'elle fait ou ne fait pas. Ce n'est pas dans son rôle social, mais c'est dans ce qu'elle est. C'est dans l'être. Et c'est un bien meilleur fondement. Parce qu'ainsi, chacun peut assumer son rôle. Et cette différence, c'est Dieu qui l'a interprétée. Il a placé un ordre. Et il a dit à la femme, « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. » Ce n'est pas une affirmation qui signifie que la femme est inférieure à l'homme. Elle est soumise dans son rôle social, dans l'économie familiale, dans la posture où il y a un leadership qui va être exercé dans son foyer et la femme va y être un soutien, va accompagner et ne va pas s'opposer. Elle ne va pas dire qu'elle ne va jamais s'opposer aux idées de son mari, mais elle n'est pas là pour être en révolte contre l'ordre que Dieu a établi, mais plutôt de l'accueillir comme quelque chose de bon, qui va être bon pour elle, pour son mariage, pour ses enfants. Mais ça ne veut pas dire, mes sœurs, que c'est facile. Parce que si on comprend bien ce que Dieu dit à la femme après la chute, dans Genèse 3, 16, il dit « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et quand il dit « Tes désirs se porteront vers ton mari », ici, il ne parle pas qu'elle va avoir envie de faire l'amour, mais que lui va dominer, qu'est-ce que ça veut dire? On ne parle pas des désirs sexuels. Mais qu'il y aura quelque chose dans la femme qui va être irrité, qui va avoir envie de dominer, qui va avoir tendance à mépriser le chef, la tête que Dieu a placée au-dessus d'elle. Parce que parfois, il est méprisable. Et que souvent, l'autorité du mari ne va pas s'exercer de façon bienveillante, mais comme une domination. Ce n'est pas pour rien que la violence conjugale, dans la majorité des cas, vient de l'homme envers la femme. Ce n'est pas parce que les hommes exercent bien leur autorité, c'est parce qu'ils l'exercent mal, de façon à accabler, à écraser. Mais souvent aussi avec des épouses qui sont rebelles, qui sont hostiles à l'ordre établi par Dieu. Alors le mariage, c'est difficile. Paul nous dit que ceux qui se marient auront des tribulations. Et l'homme et la femme ont des défis différents que Paul résume tout simplement dans Éphésiens 5:33 de la façon suivante. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Il semble que pour l'homme, c'est plus difficile d'aimer avec douceur sa femme, qui a tendance à s'aigrir contre elle, ou à être un peu lâche, à s'aimer lui-même, à être centré sur lui. Et pour la femme, son défi, c'est davantage de respecter et d'honorer son mari comme le chef que Dieu a établi sur elle. Elle a tendance à le mépriser. Alors, ça ne veut pas dire que la femme lui crie des insultes à journée longue, mais qu'elle résiste au leadership masculin, et d'autant plus en 2026, parce que on vit dans une atmosphère post-chrétienne qui nous enseigne que c'est la chose normale, il faut s'émanciper de toute forme d'autorité, parce que toutes les autorités sont oppressantes, incluant l'autorité dans le mariage. Et j'aimerais te donner, ma sœur, une image pour revoir comment tu dois te laisser diriger dans le mariage. Alors, le mariage, être dirigé par un mari, te soumettre à un mari, c'est pas une sorte de servilité où tu n'as plus de volonté, tu réfléchis plus, il pense pour toi, il décide tout. C'est plutôt comme des partenaires de danse. Alors, une soumission servile, ce serait comme de danser avec une poupée de chiffon. Alors, c'est très soumis, une poupée de chiffon, mais ce n'est pas très élégant. Ce n'est pas très gracieux. Mais des bons partenaires qui ont appris à danser ensemble ne dirigent pas tous les deux. Il y a un cavalier qui dirige, mais qui met aussi en valeur sa partenaire, qui l'élève, qui valorise sa grâce et sa beauté. Donc le mariage, c'est un petit peu comme d'apprendre à danser ensemble. Au début, on fait des faux pas, on se marche sur les pieds, mais l'idée, c'est de trouver notre harmonie. Pour les hommes, d'apprendre à diriger, parce qu'il y en a qui sont de piètres cavaliers, qui ne veulent pas diriger, qui ont peur d'assumer. Pour des femmes, c'est de se faire diriger. Parfois, elles sont trop difficiles à conduire, parfois, elles sont trop comme des poupées de chiffon. Alors, peut-être que tu vas danser un peu le style country. Peut-être ça va être plus la valse, mais apprends à danser avec ton capitaine, avec celui que Dieu t'a donné pour te diriger. Et les couples qui dansent bien, souvent c'est lorsque l'épouse a appris à se laisser diriger par son cavalier. Alors, utilise cette image lorsque le féminisme d'aujourd'hui veut te faire croire que tu es une pauvre femme asservie, malheureuse, parce que tu t'es mariée, parce que tu crois à la soumission de la femme, puis que tu crois que c'est bien d'avoir des enfants. Ne te laisse pas intimider par ce discours-là. Embrasse pleinement ce rôle-là, comme une femme épanouie et libre qui le fait avec joie et avec grâce. Et tu vas faire l'envie de toutes les féministes frustrées autour de toi qui vont voir que tu es une femme beaucoup plus heureuse. Parce que ça rend heureux, le mariage, quand ça va bien. Les époux. Alors, on était sur le plancher de danse. On va quitter le plancher de danse pour aller plutôt sur les planches d'un théâtre. Le mariage, c'est un peu comme une mise en scène. Il y a des spectateurs, des anges. Paul utilise cette image dans 1 Corinthiens 11, quand il parle du voile et puis pourquoi la femme met un voile sur sa tête à cause des anges qui ont les différentes interprétations, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Mais en gros, l'homme et la femme, c'est deux acteurs. Pas qu'ils font semblant, c'est une histoire vraie. Mais ils reproduisent une histoire d'amour qui n'est pas la leur. Ils ont leur propre histoire, mais qui reflète une autre histoire d'amour entre Christ et l'Église. Alors, l'homme et la femme sont l'Église, mais dans leur propre mariage, ils ne jouent pas tous les deux le rôle de l'Église. L'homme joue le rôle de Christ et la femme joue le rôle de l'Église. Alors, on voit ça dans Éphésiens 5, 22 à 27. C'est l'image, c'est le modèle qui est donné pour que les hommes sachent à qui ils doivent regarder pour savoir c'est quoi un vrai homme. Un vrai mâle. Un homme viril. Comment ça aime? Et le modèle qui leur est donné est celui du Seigneur. Alors, l'homme a le beau rôle. C'est le Seigneur. D'ailleurs, ailleurs, ça dit que Sarah appelait Abraham son Seigneur et c'est recommandé aux femmes d'appeler leur mari leur Seigneur. Il n'y en a pas beaucoup, puis il y a celles qui le font, et c'est généralement pour plaisanter. Et l'homme a le beau rôle, c'est le chef, c'est le Seigneur. Mais attention, il ne faut pas voir dans ces mots-là l'idée d'un petit roitelet assis sur son trône, qui se fait dorloter, qui se fait masser les pieds, qui se fait servir en claquant des doigts. C'est un bien plus grand roi que cela. Un roi qui s'oublie, un roi qui se dévoue, un roi qui est venu donner sa vie pour sa bien-aimée, qui est mort pour elle. Et il dit au mari, c'est comme ça que vous devez aimer vos femmes, arrêtez de vouloir les faire mourir pour vous servir. Mais apprenez à servir vos femmes selon la parole de Dieu, pas selon les caprices de vos femmes qui voudraient vivre selon le standard du siècle présent. Mais vous allez les diriger en leur apprenant à vivre selon la vertu de la parole de Dieu. Vous allez chercher leur sainteté en les lavant par l'eau de la parole. Vous allez être le prophète à l'intérieur de votre foyer pour rapporter la parole de Dieu. Arrêtez d'être à la remorque de vos femmes pour faire un culte familial. C'est à vous, mes frères, de prendre le leadership pour réunir vos épouses, vos enfants autour de la parole. Ça ne veut pas dire que vos femmes n'ont aucun avis à dire, rien qu'elles peuvent apporter qui va être édifiant et même instructif pour vous-même, comme si vous, vous aviez la science infuse. Mais à jouer ce rôle de leadership qui facilite beaucoup le rôle de la femme de se soumettre à un mari qui ressemble à Christ. un mari capricieux, qui est centré sur lui-même et qui n'est pas capable de servir les autres, qui vit pour son nombril, c'est difficile à servir. Et il y en a qui le font avec grâce néanmoins. Mais celui qui aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, s'aime lui-même. Parce qu'il prend soin de sa propre chair, de sa tendre moitié, qui va l'aimer tendrement en retour. Donc, c'est de cette façon-là que l'homme est appelé le chef de la femme. De la même façon que Jésus enseigne, c'est quoi un chef parmi ses disciples? Il leur dit dans Luc 22, verset 27, « Lequel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Or, les chefs sont des chefs serviteurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont jamais servis. Mais c'est la beauté du mariage où nous nous servons l'un l'autre. Nous prenons soin l'un de l'autre. On n'est pas juste en train de tirer sur notre bord de la couverte. Mais on donne, sachant que l'autre va s'occuper de nos besoins affectifs, nos besoins d'écoute, et ainsi de suite. Alors, qui a le beau rôle? Qui a le rôle le plus difficile? Ben, c'est difficile de trancher. Chacun des deux rôles est exigeant. Chacun des deux rôles est humiliant. Mais ce sont des rôles distincts que Dieu nous a donnés. Et ne nous appelle pas à les intervertir, mais à les embrasser. Et c'est comme ça que l'homme et la femme se complètent et deviennent un. Ils ne sont pas un en étant identiques, mais en se complétant l'un l'autre, en jouant pleinement leur rôle. C'est ça le complémentarisme. Et mieux chaque époux va jouer son rôle, plus ça va être facile pour l'autre époux de faire le sien. Alors, concentre-toi pas sur le rôle de ta femme, concentre-toi pas sur le rôle de ton mari, concentre-toi sur ton rôle. Et tu vas aider ton mari ou ta femme à faire le sien en faisant le tien. C'est un peu aussi ce que Jésus dit dans un autre contexte, où tu n'es pas d'abord appelé à enlever la paille dans l'œil de ton frère, mais à t'occuper de la poutre qui est dans ton œil. Et c'est la meilleure façon pour aider ton frère. Alors, si c'est vrai dans les relations en général, c'est particulièrement vrai dans le mariage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais une place pour s'exhorter, pour dire « Chérie, je pense que tu devrais faire les choses ainsi. » Mais ça doit toujours être accompagné d'un souci de bien remplir ton propre rôle. Les enfants, est-ce qu'il y a des... on en a deux ici. On a Caleb. Cherchons le nom. Déborah. Rappelle-moi les noms de tes enfants. Shana et Noya. Y avait-tu d'autres des plus petits? Les autres sont très petits.
Il y a des bébés.
Il y a des bébés. Il y en a les 18 ans et moins, levez la main. Ils sont tous en haut de 18 ans, tout le monde. Bon, ben c'est juste pour vous quatre. Écoutez-moi bien, là. Vous n'écoutiez pas, mais là, je m'adresse à vous. Honore ton père et ta mère. Comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Est-ce que ça vous tente d'être heureux dans la vie ou vous aimez mieux être malheureux? Heureux? C'est vrai que c'est plus le fun d'être heureux. Bon, ben ici, c'est un commandement. Dieu nous a donné 10 commandements pour résumer tout ce qui attend de nous. Celui-là, savez-vous, c'est le combientième que je viens de vous lire? Le deuxième? Non. Mais c'est le premier de la deuxième table. C'est peut-être ça que tu voulais dire. C'est ça. Mais dans l'ordre des 10 commandements, c'est le cinquième commandement. Cependant, les 4 qui ont précédé, c'était juste un commandement, mais pas de promesse. Celui-ci, c'est un commandement avec une promesse. Avez-vous entendu c'était quoi la promesse? Le commandement, c'est « Honore ton père et ta mère ». Fait que ça veut dire que quand tu es petit et tu vis sous leur autorité, il faut que tu leur obéisses. Tu ne peux pas honorer tes parents en leur désobéissant et en disant « oui » quand ils disent « non » ou en disant « non » quand ils disent « oui ». Tu dois obéir. Puis tu dois l'honorer. Puis ça continue même quand tu n'es plus sous leur autorité. Vos parents, ils ont la plupart encore des parents, puis ils doivent encore les honorer. Ça ne veut pas dire qu'ils leur obéissent, mais qu'ils les respectent, qui les aiment, qui en prennent soin. Mais pourquoi on fait ça? Bien, Dieu nous fait une promesse. C'est quoi la promesse? Afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Vous ne pouvez pas être heureux si vous êtes des enfants rebelles. Vous allez arriver bientôt à l'adolescence. Puis des fois, ça vient avec une crise d'adolescence. Où là, on en a marre de nos parents. On veut plus qu'ils nous disent quoi faire. On veut plus qu'ils nous disent à quelle heure se coucher, avec qui on a le droit de se tenir, ou combien d'heures on a le droit d'être sur un écran. Puis on veut faire notre vie. Bien, vous pouvez pas être heureux avec cette attitude-là. Alors, peut-être que tu vas être heureux pour quelques minutes, parce que tu vas avoir ce que tu veux. Mais tous les enfants rebelles sont malheureux. Fait que c'est très, très simple dans la vie. Dieu nous donne le secret. Tu veux être heureux. Tu ne veux pas être quelqu'un qui est dépressif. Tu ne veux pas être quelqu'un qui a l'impression qu'il n'a pas de but dans la vie ou qui a raté sa vie. Apprends à honorer tes parents. Aujourd'hui, ça peut paraître comme, ah oui, là, c'est facile, c'est sûr, c'est vous qui me le dites. C'est, vous êtes les parents, puis... Mais en fait, c'est vrai que ça va rendre heureux pas juste toi, ça va rendre heureux tes parents, que tu les honores. Mais ton bien-être, et pas juste le tien, le bien-être de toute la société en dépend. Savez-vous pourquoi ça va mal dans la société en général? Parce que la famille est brisée. Parce que les enfants n'ont pas été enseignés à honorer leurs parents, puis les parents n'ont pas joué un rôle pour exercer leur rôle. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui ne veulent même plus s'occuper de leurs enfants. Ils les élèvent avec une tablette, avec un téléphone, avec des jeux vidéo pour ne pas avoir à s'en occuper. C'est très malheureux. Ça fait des enfants qui sont livrés à eux-mêmes et qui ne vont pas développer ce qui est nécessaire pour être heureux dans la vie, pour savoir être en relation avec d'autres êtres humains. Parce que Dieu nous dit qu'on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et le premier prochain que vous devez apprendre à aimer, c'est votre papa et votre maman. En le respectant, en valorisant ce qu'il vous dit, et Dieu va vous bénir. Puis plus qu'une société fait cela, plus que la société est épanouie, plus qu'elle est prospère, plus qu'elle va bien. Écoute ce que Proverbes 23, 15 et 16 dit. « Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. » Pourquoi est-ce que vos parents veulent tant que vous les honoriez? C'est pas premièrement pour eux-mêmes. C'est pour la gloire de Dieu et c'est parce qu'ils vous aiment. Des parents qui laissent faire à leurs enfants tout ce qu'ils veulent ne les aiment pas. Ça ne veut pas dire qu'ils les haïssent. Mais ça veut dire qu'ils n'exercent pas l'amour comme ils le devraient. Si vous avez des amis que leurs parents leur laissent faire n'importe quoi, ils n'ont pas des parents qui les aiment comme il faut. Si vous apprenez à obéir à vos parents et à les honorer, vous allez devenir sage. Et le cœur de vos parents va être dans la joie. Ils vont être fiers de vous. Et vous avez jusqu'à la vie adulte pour réussir l'enfance. Alors peut-être que des moments où vous êtes rebelle, mais ce que Dieu vous demande, c'est de réussir votre enfance en apprenant à honorer vos parents. Mais maintenant, je parle à tous les autres enfants qui sont rendus grands, notre obligation envers le cinquième commandement n'est pas terminée une fois qu'on a quitté notre père et notre mère et qu'on s'est marié. L'apôtre Paul nous rappelle que nous avons le même devoir d'honorer nos parents, même quand on n'est plus sous leur autorité. Ce n'est plus un devoir d'obéissance, mais c'est un devoir d'assistance, un devoir de bienveillance envers eux. Il est interdit aux chrétiens d'abandonner leurs parents aînés dans des hospices, dans des centres pour personnes âgées. Ça ne veut pas dire que nos parents ne peuvent pas habiter dans une résidence de personnes âgées, mais ça veut dire qu'on n'a pas le droit de les abandonner dans une résidence pour personnes âgées. Nous avons le devoir, si jamais ils sont en centre quelque part, de veiller sur eux, de les protéger. Il y a des gens malveillants qui abusent parfois des personnes vulnérables dans la vieillesse. Et c'est le rôle des enfants adultes de protéger leurs parents. Si c'est possible de les prendre chez eux, de veiller sur eux pour un temps, peut-être pas jusqu'à leur mort, mais ils doivent le faire. 1 Timothée 5, verset 4. « Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. » Donc, les personnes seules, et les veuves et veufs en particulier, ne sont pas premièrement à la charge de l'Église, mais de la famille naturelle. Et d'autant plus si c'est des chrétiens. Et c'est seulement lorsqu'il n'y a pas de famille naturelle qui s'occupe des personnes âgées qu'ils deviennent la charge de l'Église. Et donc, honorer nos parents, c'est aussi honorer les aînés dans l'Église. Tous ceux qui sont membres de votre congrégation n'arrêtent pas d'être membres une fois qu'ils sont rendus trop vieux pour venir le dimanche. Lorsqu'on fait des vœux de membriété, on s'engage jusqu'à ce que la mort nous sépare à marcher comme des frères et des sœurs. Donc, le devoir de visiter les frères et les sœurs malades et les aînés, de les aimer, c'est une responsabilité collective qui appartient premièrement à la famille, mais dans un deuxième temps à l'Église. Les parents, après les enfants. Après que l'apôtre se soit adressé aux enfants dans l'Église de Colosse, l'apôtre parle maintenant aux parents. Il parle directement aux pères, mais je pense qu'on peut inclure le rôle des mères qui est compris dans cette interpellation. « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Alors, il faut veiller à ne pas nuire à nos enfants dans notre manière de les éduquer, à ne pas nuire par notre négligence qu'on pourrait avoir envers eux, ne pas s'impliquer parce que ça demande du temps, ça demande d'être intentionnel pour s'impliquer dans l'éducation de nos enfants. Je mentionnais tantôt ce fléau du numérique où on laisse les enfants pendant des heures interminables. Si vous n'exercez pas un contrôle parental sur le monde virtuel de vos enfants, c'est de la négligence parentale. Le monde est un monde prédateur, et en particulier le monde du web. Sachez avec qui vos enfants sont amis, sachez combien de temps vos enfants passent devant un écran et qu'est-ce qu'ils y font. Élever des enfants, c'est long. Avant, vers 18-20 ans, là, ça quittait la maison. Là, aujourd'hui, c'est 30-40 ans. Mais bon, ça change. Ils peuvent rester à la maison plus longtemps. C'est plus des petits-enfants qui dépendent de nous de la même façon. Ils deviennent des adultes. Mais développer leur caractère, développer leur esprit par la parole de Dieu en les catéchisant, en les instruisant dans la parole de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en accéléré. Et c'est pas quelque chose dont on peut simplement déléguer la responsabilité à d'autres. L'Église a une certaine responsabilité dans l'instruction des enfants, mais c'est d'abord la responsabilité des parents. Alors, si vous comptez juste sur l'école du dimanche ou la prédication dominicale, arrêtez ça tout de suite. Il faut investir davantage de temps et d'énergie. Bon, j'ai pas besoin de faire 40 heures, mais avoir un temps, idéalement quotidiennement, de quelques minutes pour ouvrir la parole, pour faire parler vos enfants et leur poser des questions et les rendre participatifs à ce qu'ils soient réceptifs à la parole de Dieu, leur apprendre à adorer Dieu, à le craindre, à garder ses commandements quand tu vas en voyage, quand tu es en chemin, quand tu es à la maison, pour reprendre ce que Deutéronome 6 nous dit. René Lévesque avait une belle expression pour dire qu'il y a certaines choses qui prennent du temps avant de fleurir. Il dit, on ne tire pas sur nos fleurs pour les faire pousser plus vite. On ne peut pas accélérer le processus de développement, de maturité des enfants. Ça se fait lentement et c'est pour ça qu'il faut s'armer de patience. Père, n'irritez pas vos enfants, mais ne vous irritez pas contre vos enfants. Il y a des moments pour se mettre en colère dans les limites d'une colère qui est sainte, mais attention à la colère. Attention à l'impatience. Il faut user de beaucoup de grâce. Les enfants ont besoin de ce terreau de la grâce. Donc, vous accompagnez vos jeunes jusqu'à la vie adulte pour les rendre capables de faire face à ce monde, qui a été capable de ne pas juste dépendre d'une restriction parentale, mais qui comprennent le but des restrictions pour apprendre à se restreindre eux-mêmes, qui ne peuvent pas donner libre cours à tous leurs désirs, à tous leurs appétits. Votre rôle, c'est d'exercer en ce moment, ce contrôle et cet accompagnement pour les rendre eux-mêmes matures et qu'il n'ait plus besoin que vous exerciez cette autorité. Leur apprendre à discerner entre le bien et le mal, à examiner les discours auxquels ils sont exposés, qui viennent des amis, qui viennent des professeurs, qui viennent de la musique, des films. Voilà. L'apôtre termine avec les serviteurs, les domestiques, bien sûr. Ça s'applique un petit peu moins à notre contexte social, mais on peut voir ce qu'il nous dit avec la catégorie plus générale de les autres, qui ne sont pas la famille de sang et d'alliance. Et on peut l'appliquer dans le domaine plus général du travail. Les gens pour qui nous travaillons, ou les gens que nous employons pour nous. Les gens avec qui nous cohabitons, qui nous visitent, que nous hébergeons, ou qui viennent prendre un repas chez nous, qui viennent de passage, les gens avec qui nous partageons notre vie. L'idée, c'est que la famille doit s'ouvrir à d'autres. La famille chrétienne n'est pas une famille refermée sur elle-même. Mais c'est une famille qui est ouverte sur d'autres familles, qui est un lieu qui exerce l'hospitalité, où on apprend à honorer d'autres personnes dans nos rapports sociaux, à honorer d'autres foyers ou d'autres individus qui travaillent pour nous, pour qui on travaille, où on démontre par notre ponctualité, par notre intégrité, par notre honnêteté, par notre hospitalité, les caractéristiques d'un foyer chrétien, qui est le lieu par excellence de l'édification et de l'évangélisation. Il y a le moment où les chrétiens sont rassemblés, mais le moment où ils sont dispersés, ils continuent d'être la lumière du monde. Et notre lumière doit briller. Et bien pour ça, il faut ouvrir les fenêtres, ouvrir les portes, inviter les gens à entrer, servir les autres. Et la façon qu'on le fait, c'est en servant le Seigneur de bon cœur. C'est la dernière relation qui nous est présentée au verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Dans tous ces rapports qui ont été énumérés, entre l'épouse et l'époux, les enfants et les parents, le foyer, les gens à l'extérieur du foyer, il y a une relation ultime qui se profile derrière le rapport que nous avons avec nos prochains. C'est notre soumission envers le Seigneur. C'est notre amour pour le Seigneur. Le deuxième commandement, le deuxième grand commandement, « Aime ton prochain comme toi-même » dépend du premier commandement. « Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force. » Et concrètement, c'est au travers des relations. C'est pour le Seigneur que la femme apprend à aimer son mari comme Dieu lui commande. Et de même, c'est pas parce que ta femme est toujours la femme idéale et soumise que tu dois l'aimer parce que ça te tente. Mais c'est pour glorifier et honorer le Seigneur. Et il en va de même pour chacune de nos relations. Et cette motivation, c'est un peu l'antidote au cercle vicieux qui affecte les relations familiales et sociales. Quand une épouse n'arrive pas à se résigner, à se soumettre à un mari qui n'est pas aimant, n'est pas généreux, ressemble pas à Christ, ou un époux qui a peine à se sacrifier pour une femme qui trouve qu'il est capricieuse, qui fait que le critiquer. C'est pas en se disant, mais quand elle va faire ou quand il va faire son rôle, je ferai le mien. La motivation, il la trouve parce qu'il veut aimer le Seigneur, qui lui est toujours digne des sacrifices qu'on doit consentir pour aimer les autres. Donc, attends pas après les autres. Pour les aimer, pour les honorer, et pour exercer tous les rôles que tu es appelé à faire envers eux. Mais empresse-toi à le faire pour le Seigneur, en servant les autres. Et cet amour et cette disposition qui est continuellement renouvelé, peu importe ce que tu reçois en retour. Même si tu as un mari dur ou une femme têtue, même si tu as des enfants rebelles puis qui sont hostiles pendant l'adolescence et que tu dois continuer à les aimer tendrement avec beaucoup de douceur puis tu auras envie de les sacrer à la porte. L'amour que tu as pour le Seigneur en les aimant, c'est la meilleure chose qui peut les changer, les amener à t'aimer en retour et avoir une relation qui va être bénéfique. Mais ça commence pour le Seigneur. On a terminé avec ça, mais c'est le point fondamental. C'est la relation première, c'est le premier commandement. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu nous apprends à aimer, Seigneur. C'est simple, mais c'est difficile et on a besoin de ta grâce. Et Seigneur, on a besoin de se rappeler l'ordre des commandements. On n'est pas appelé à nous aimer nous-mêmes premièrement, mais à t'aimer toi et à aimer nos prochains comme nous-mêmes. Seigneur, aide-nous à le faire dans toutes les relations au sein de la famille immédiate, la famille élargie, la famille en Christ. Seigneur, que nous puissions te glorifier à être des enfants de lumière au milieu d'un monde confus. Et que, Seigneur, on puisse, par cette manière de vivre, être une lettre écrite par ton esprit, lue de tous les hommes, et répandre la bonne odeur de ta connaissance. Parce que tu en es digne, Seigneur. Et c'est au nom de Christ qu'on te demande ces choses. Amen.